Nous allons lire dans le chapitre 3 de Colossiens, à partir du verset 5, pour avoir un peu de contexte. Je ne vais pas reprendre tout le chapitre comme les dernières fois, mais aujourd'hui c'est les versets 12 à 14 qui nous concernent. Mais on lit à partir du verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles donc de ce monde. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, donc connaissance de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. On retrouve l'image de Dieu en nous. Il y a là, dans cet homme nouveau qui se renouvelle, il y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, voilà la partie qui nous concerne, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre à un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et il faudrait que nous nous habillions pour notre destination finale. La cité céleste, nous sommes déjà là, ressuscités avec Christ. On a un pied au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel et non plus de cette terre. Et il faut que nous soyons revêtus de cette nouvelle identité. Et il faut que nous parlions la langue du ciel, qui est la sainteté, l'amour, la pureté, la vérité. Et aujourd'hui, ayant parlé de ce qu'il faut dépouiller de notre vie, nous allons parler de la partie positive. Nous avons vu que c'est un grand piège d'avoir une vie chrétienne qui est seulement focalisée sur ce qu'il faut rejeter. Ça ne marche jamais. Pour chaque chose que nous rejetons de notre vie, il faut que nous embrassions et que nous revêtions la vertu opposée. De quoi devez-vous et dois-je me revêtir en tant que chrétien? Alors, d'abord, je vous dis que ce n'est pas une liste exhaustive dans les versets 12 à 14. Ok? Nous n'avons que 5 vertus et 2 actions. Si vous allez ailleurs, en Éphésiens 4, vous avez d'autres vertus qui ne sont pas ici. Paul n'essaie pas de faire la liste exhaustive. Il nous donne de quoi comprendre un peu le reste. Ces 5 vertus, on les nomme ardente compassion, bonté, humilité, douceur, patience. En fait, il y avait 5 vices juste avant, dans le verset 8. Et colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche, c'est probablement pour mettre 5 en face de 5. Quand vous voulez jouer un match, il faut avoir, c'est quoi, 11 joueurs dans le foot? Il faut avoir 11 contre 11. C'est pour dire que nous avons des vertus complètes pour remplacer tout ce que nous rejetons de notre vie. C'est un peu une manière littéraire de dire qu'on est complet. Mais je dois vous dire aussi, avant de vraiment plonger dans le sujet, que ces vertus, attention, sont des vertus miraculeuses. Vous ne pouvez pas être comme ça de vous-même. Essayez tant que vous voulez. Ardente compassion, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a une autre vie à l'œuvre en vous, une autre puissance, un autre esprit qui n'est pas le vôtre. Christ est tout et en tous dans cette affaire. OK? Donc nous sommes accompagnés dans ce pèlerinage de devenir ce que nous devons être. Il y a trois groupes de vertus dans ces cinq vertus. Je veux bien les regrouper parce que comme ça, vous pouvez comprendre un peu une logique. D'abord, il y a des vertus de bonté. Ça, c'est les deux premières. Ardente compassion et bonté. Deuxièmement, il y a des vertus d'humilité. Ça, c'est l'humilité et la douceur. Je vais vous expliquer pourquoi la douceur, c'est presque un synonyme de l'humilité dans la Bible. Troisièmement, il y a des vertus de patience. Ça, c'est la patience et les deux actions qui en découlent dans le texte, de supporter les autres et de leur pardonner. Et bien sûr, il y a un survêtement qu'on met par-dessus de tous les autres et qui les tient en place. Parce que le verset 14, regardez bien, nous dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous d'amour qui est le lien de la perfection. Et probablement, Paul fait un jeu de mots et il veut vraiment dire par-dessus de tout, parce qu'on est en train de mettre un vêtement après tout, par-dessous tous les autres vêtements dont vous revêtez. Donc, vous allez vous revêtir d'amour qui est un lien. Quand vous aimez, ça tient en place toutes les vertus. Sans l'amour, ces vertus ne sont pas ce qu'ils devaient être. Je vous donne un exemple, la patience. Quelqu'un qui a la patience, mais pas une patience qui vient de l'amour, cette patience n'est qu'une simple mollesse. D'accord? Cette personne est patiente parce qu'elle est passive. Mais lorsque la patience, lorsque tu es patient avec moi, parce que tu m'aimes, cette patience est vraiment autre chose, n'est-ce pas? Cette patience prend tout son caractère. D'accord? Bien, nous allons maintenant prendre juste une seconde, ou deux ou trois, pour regarder chacun de ces quatre vertus. D'accord? On commence avec l'ardente compassion. Alors, chers amis, nous devons d'abord, et c'est logique que ce soit le premier des vertus, nous devons nous revêtir d'ardente compassion. Littéralement, vous savez ce que ça c'est comme terme? C'est des entrailles de compassion. Voilà. Ça veut dire que ça vient du fond de nous, et c'est un mot qui parle non pas de ce que nous faisons envers les autres, mais de ce que nous ressentons envers les autres. La compassion est une passion. Et si vous allez être comme Christ, il ne suffit pas de faire le bien d'une manière détachée. Il faut faire le bien ému de compassion. Et c'est quoi la compassion? C'est simplement que vous et moi, de plus en plus, et là, je me sens très, très convaincu de mon péché quand je vous parle. Je dois vous dire, j'ai presque envie d'arrêter de dire, bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Parler de compassion. Voyons mon besoin. Mais la compassion, c'est lorsque nous entrons dans le besoin ou la difficulté ou l'angoisse de l'autre. Compassion, la partie. Comme COM, ça veut dire avec. Je sens avec lui ce qu'il sent. On voit quelqu'un de souffrant, de quelqu'un de même qui a un mauvais caractère, et on sent quelque chose pour lui. Ah,
C'est vraiment pitoyable que ce soit ainsi pour lui. Donc on le rejoint, on ne se tient pas loin de lui comme un rival ou comme un adversaire, mais on le rejoint dans son problème et dans son mal, et on sent pour lui. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui nous frappe dans le Seigneur Jésus. Constamment, pendant ces 3 années où Dieu vient se révéler, nous voyons qu'il est souvent carrément ému de compassion. Je vous donne quelques exemples. Un jour, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus voyait cette foule et il voyait combien spirituellement ils étaient. Et quel est l'effet sur lui? Il est ému, il est pris aux tripes. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ou bien, une autre fois, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elles sont près de moi et elles n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Un truc complètement physique et presque banal. Mais le Seigneur est pris de compassion et dit, vous ne les renvoyez pas. J'ai peur pour eux. Un jour, 2 aveugles viennent vers lui, la foule dit, taisez-vous, taisez-vous. Et ils réussissent à venir vers Jésus. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Vous voyez que quand Matthieu nous raconte ça, il était là. Et ce qui l'a frappé, ce n'est pas simplement le miracle. Un miracle, c'est juste la puissance. Satan a de la puissance. C'est cet amour, cette bonté, cette compassion. Ému de compassion, il touche. C'est vraiment magnifique. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui ont vraiment de la compassion? C'est vraiment un bijou rare, n'est-ce pas, dans notre monde. Et combien je me sens moi-même besoin de me plier devant le Seigneur. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi ou non, petit Johannes. Ouais. Ok, la compassion. Deuxièmement, la bonté. La bonté. Si la compassion, c'est ce que je ressens envers vous, la bonté, c'est ce que je fais pour vous. C'est ce que je fais pour vous. D'accord? Et je ne vais pas en dire autant, mais simplement vous donner encore l'exemple de Christ. Il vaut mieux le voir que d'entendre une description abstraite, n'est-ce pas? Et quand nous lisons dans la Bible, dans le livre des Actes, nous entendons ceci. Dans une prédication d'un des apôtres. Vous savez, il dit à la foule, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. J'aime ça trop. J'aime ça trop. C'est une description parfaite. Alors, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est vraiment ce que nous constatons lorsque nous voyons la vie de Jésus, n'est-ce pas? C'est cette bonté qui déborde, qui découle de lui. Ce désir de secourir ceux qui sont dans le besoin et dans le mal. Troisièmement, l'humilité. L'humilité. Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous avez ce vêtement d'humilité? Claudine dit, je suis humble et fier de l'être. Très bien.
C.S. Lewis a dit que quand vous rencontrez quelqu'un d'humble, quand vous le quittez, vous n'avez pas envie de dire « Tiens, il était humble ». Vous avez envie de dire « Il ne pensait pas à lui-même, mais aux autres ». Ça, c'est très important. Parce que l'humilité n'est pas une vertu qui s'affiche. « Je suis humble ». L'humilité, c'est ce par quel je m'oublie. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un. Donc, on ne voit pas l'humilité. On ne le voit pas. On sait simplement qu'il pense aux autres. L'humilité n'est pas le fait de penser que je suis plus petit que je ne le suis, ou moins doué que je ne le suis, ou plus mauvais que je ne le suis. Ce serait un mensonge. L'humilité, c'est le fait de me juger comme je suis. Maintenant, regardons l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'habitude de vouloir être par rapport aux autres plus grand, plus sage, plus important, plus spécial. L'orgueil, c'est un vice comparatif. S'il n'y a personne d'autre, je ne peux pas être orgueilleux. D'accord? Si je joue bien le piano, mais personne d'autre ne joue, c'est lorsque je joue mieux que les autres. Et l'homme orgueilleux, il ne peut pas supporter d'être ordinaire, d'être comme les autres. Il doit sortir du lot. Et nous sommes tous infectés de ce vice. Donc, l'humilité, c'est le fait de nous voir non pas par rapport aux autres, mais par rapport à Dieu, et tout de suite tout change. Devant Dieu, je ne suis rien en tant que créature. Tout le bien que j'ai, tous les dons que vous avez, c'est juste un cadeau de la part de Dieu. C'est à lui ces dons. Qu'est-ce que vous avez, dit l'apôtre, que vous n'avez pas reçu? Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous vantez? Est-ce que vous vous vantez comme si vous ne l'avez pas reçu? Et donc, ça nous rabaisse tout de suite. Nous sommes tout petits devant lui. Nous sommes rien et moins que rien. Et tout ce que nous avons de bien vient de lui. Du coup, on n'a pas besoin d'être quelqu'un. Mais on aime plutôt voir le bien que Dieu donne à toutes ses créatures. Dieu qui se montre en tous. On dit que c'est formidable. Parce que si mes dents sont juste une expression de qui Dieu est dans sa bonté et sa puissance, alors j'aime autant le voir chez toi que chez moi. Ah, c'est formidable. C'est merveilleux l'humilité. Augustin a dit ceci. L'humilité au milieu des mauvaises œuvres plaît à Dieu plus que l'orgueil au milieu des bonnes œuvres. Je crois de tout mon cœur que celui qui fait beaucoup de bonnes œuvres, qui prêche bien, qui fait de grands exploits, mais qui doit être quelqu'un, il est dans une situation bien pire que la personne immorale qui commence par la grâce de Dieu, être touché par le sentiment de son mal et de son besoin. Donc, je finis sur l'humilité juste en vous disant une chose. Dans nos milieux évangéliques, dans certains milieux évangéliques, il y a un grand problème d'orgueil spirituel. Jusqu'au point où l'orgueil est complètement prisé et légitime dans ces milieux chrétiens. Donc les chrétiens viennent ensemble et ils se racontent leurs exploits. Et que ce soit dans le témoignage chrétien, dans le service chrétien, les bonnes œuvres deviennent simplement un tremplin pour que moi, je puisse m'exalter. Et si vous ne croyez pas à ça, Alors, je vous lance le défi. Allez, écoutez un peu pendant quelques mois. Allez dans plein de milieux chrétiens et vous allez voir combien nous avons de quoi nous lamenter. L'orgueil n'a aucune place parmi nous. Aucune place. Et nous devons nous dépouiller de cela et nous revêtir de cette humilité qui n'a plus besoin d'être quelqu'un, parce que pour nous, être quelqu'un, c'est être élu, racheté, aimé par Dieu dans sa grâce souveraine. Et de pouvoir, à sa suite, servir les autres. C'est ça la vraie grandeur, n'est-ce pas? De pouvoir, comme Christ, servir. Quelle est la grandeur de Jésus-Christ pour vous? N'est-ce pas sa descente de prendre une forme vraiment humiliée? C'est ça qui nous émerveille. Que du Fils de Dieu qu'il était, qu'il vient comme ça, qu'il subit ça, c'est la gloire. Donc pour nous aussi, ce n'est pas d'être quelqu'un, mais la vraie grandeur, c'est de pouvoir servir les autres dans l'amour. La douceur. Dans le grec classique et dans le latin, on n'a aucun mot pour l'humilité en tant que vertu. C'est étonnant. Mais dans le français, on n'a aucun mot pour prautesse. Donc on est obligé de traduire ça douceur, ce qui ne va pas du tout. Parce que quand moi je dis douceur, ayez de la douceur, vous pensez à quelqu'un qui parle comme ça. N'est-ce pas? Oh, il est doux. Mais ce n'est pas ça, praotes. C'est quoi en fait? Alors, c'est plus ou moins le fait de ne pas être intraitable. Maintenant, pensons à cette sorte de personne qui est obstiné, qui insiste que les choses doivent aller toujours selon ce qu'il veut. Quand le vote va à l'encontre dans l'Église, quand le vote va à l'encontre de sa volonté, il est impossible à traiter. Il ne peut pas voir que peut-être il n'a pas raison. Et quand on l'offense, oh là là! Il est obstiné. Il est têtu, on ne peut pas raisonner avec lui, on ne peut pas le changer. Et quand quelque chose de providentiel arrive, il tombe malade alors qu'il tenait à faire une chose, il est insupportable pendant 3 mois. C'est ça le contraire de praotes. Maintenant, quelqu'un qui est doux dans le sens biblique, ça veut dire on peut traiter avec lui. On peut le changer de voie. Il se méfie de lui-même. Peut-être je n'ai pas raison. Peut-être je ne devais pas faire ça. Et c'est pour ça que l'Éternel me rend malade et je ne peux pas le faire. Il est docile. Il est malléable dans la main de Dieu. Il est un homme, on peut vivre avec lui. Quand ça ne va pas selon ce qu'il veut. Il est vraiment quelqu'un qui est facile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un, on peut faire n'importe quoi avec lui. Hein, on peut rouler sur lui. Non, ce n'est pas ça. Ne rejetez pas la douceur en faisant une caricature de la douceur. Il peut être un homme très fort qui peut insister sur la vérité quand il le faut. D'accord? Mais il sait aussi quand. Il faut être malléable. Il faut pouvoir, oui, avouer que ça va pas aller comme je le veux. Nous le voyons dans le Seigneur Jésus. Jésus ne dit que deux choses au sujet de lui, de son caractère au niveau vertueux. Il dit, à un moment donné, vous vous rappelez bien dans Matthieu chapitre 11, je vous lis le verset, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis, voilà, Tu es quoi? Car je suis doux et humble de cœur. Et donc nous voyons cette manière relationnelle du Seigneur qui n'est pas celui qui dure, qui est obstiné, qui est braqué sur sa volonté. Quand le Seigneur le dévie, il se laisse dévier. Oh, combien la terre serait un paradis si nous étions tous comme ça, n'est-ce pas? Combien de nos malheurs viennent des vices qui sont contraires? Combien de nos problèmes dans le mariage, n'est-ce pas, et dans nos relations entre enfants et parents, viennent du fait que nous ne sommes pas revêtus de ces vertus? Dernièrement, on parle de la patience. La patience, littéralement, le mot ici signifie souffrir longtemps. Est-ce que vous saviez que Dieu vous commande de souffrir en raison des autres et leur comportement longtemps? C'est ça la patience. Et cette patience se montre dans deux actions qui suivent. Regardez le texte dans Colossiens 3, et je vais essayer de tirer vers la fin. Il dit ceci, dans la fin du verset 12, d'humilité et de douceur, de patience, littéralement, vous supportant les uns les autres, faisant grâce réciproquement, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et donc, nous voyons que de cette patience découle le fait, d'une part, de supporter. En français, c'est un peu trop négatif comme mot. Je dois le supporter. C'est pas ça, c'est vraiment un mot positif. On le supporte. Mais ça veut dire quoi, de supporter quelqu'un avec patience? Ça veut dire que quand quelqu'un agit d'une manière qui te déplaît, dans l'église, dans ta famille, dans le voisinage, tu n'es pas quelqu'un qui réagit tout de suite pour te mettre en colère ou attaquer la personne, mais plutôt, tu, avec patience, tu lui donnes le temps de changer. Tu lui donnes l'espace d'être imparfait et pécheur. Tu n'exiges pas que tout le monde dans ta vie doit être parfait, sinon tu te fâches avec eux. N'est-ce pas? Tu es lent à... Toi-même, tu es pécheur. Tu sais combien Dieu a dû attendre et souffrir longtemps avec toi. Et je vous demande, combien est-ce qu'il a attendu patiemment avec vous pour que vous changiez? Et de même, comme Christ vous a fait grâce, nous voulons donner de l'espace, donner du temps en priant que les personnes changent. Lorsque vous supportez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes indulgent dans le sens que « Oh, c'est pas grave s'il est comme ça ». Non, ça peut être grave, mais ça veut dire que nous faisons confiance à Dieu et nous donnons du temps. Jésus avec les 12 apôtres, c'est vraiment l'exemple parfait. Combien de fois il a dû les supporter? Combien ils étaient incrédules? Ils ne croyaient pas alors qu'il leur avait dit maintes et maintes fois, n'est-ce pas? Leur lenteur de cœur, leur orgueil, leur égoïsme. Et une fois il dit, pour combien de temps est-ce que je dois encore vous supporter? Donc on peut avoir cette attitude parfois, combien de temps encore est-ce que je dois supporter telle personne? Mais on revêt cette attitude de vouloir donc tenir encore avec la personne et pas contre. Je termine en parlant du pardon. Dans l'église, vous aurez besoin de pardonner aux autres parfois. Vous aurez besoin de me pardonner, j'aurai besoin de vous pardonner. Nous aurons de quoi se plaindre, dit le texte, si quelqu'un a de quoi se plaindre envers un autre. Et notre appel, c'est, regardez le texte dans ce verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Ça veut dire que le pardon doit toujours se nourrir du pardon que nous avons reçu de Christ. D'accord ? Vous ne pouvez pas pardonner à moins de revenir encore et encore au rappel, au souvenir de comment Christ a fait et fait encore avec vous. Comme le Christ a fait avec vous, faites-vous aussi. Et lorsque j'ai besoin de pardonner quelqu'un et je n'ai pas envie, je quitte cette affaire un moment mentalement et je viens à Christ et je pense à mes péchés. Combien j'ai été insensé et dur et orgueilleux et rebelle et révolté contre le Seigneur et ses voies et son pardon et combien il m'a pardonné. Et quand je pense à tout cela, je reviens à la personne et qu'est-ce qui arrive ? Son péché qui était gros comme ça, maintenant est petit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai envie de lui pardonner. Dans le corps de Christ, ce qui nous encourage, quand vous devez pardonner un chrétien, c'est encourageant de savoir que ce chrétien va sans doute se repentir pour ce péché qu'il a fait contre vous un jour. C'est sûr. Même si c'est au moment de rencontrer le Seigneur, ce chrétien, s'il est vraiment chrétien, il va faire couler des larmes. Et il va dire, oh, combien j'ai fait du tort à telle personne, j'ai besoin de lui en parler. Et dans la connaissance de cela, on peut faire grâce en attendant. Parfois, on a besoin de reprocher la personne pour que la repentance se fasse là. Parfois, on arrive à tirer la couverture, même sans que la personne se rende compte qu'il a été un peu méchant envers nous. Parfois, quand la personne ne se repent pas, on ne pardonne pas encore. Car Jésus dit, s'il se repent, pardonne-lui. Mais on a le pardon là, en réserve, et on a un cœur miséricordieux qui veut pardonner dès qu'il se repent. Mais pardonner, ce n'est pas avoir un cœur clément envers la personne. Pardonner, c'est une promesse. Pardonner, c'est dire à la personne, désormais, je mets en oubli ce qui s'est passé. D'accord ? Et parfois, on ne peut pas dire je mets en oubli parce que la personne a besoin que je lui en parle. D'accord ? Mais le pardon doit être prêt à donner. Qu'est-ce qui nous motive à avoir, à revêtir toutes ces vertus ? Dans le verset 12, et je finis avec cela, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de toutes ces vertus. » Ce qui me donne vraiment la motivation, ce qui vous donne la motivation, c'est encore cette identité bienheureuse et bénie. Comme des élus de Dieu, chers amis, vous avez été choisis et élus souverainement de Dieu dans son amour. Il aurait pu vous laisser dans vos péchés. Il n'a pas choisi tout le monde. C'est sa grâce souveraine. C'est un mystère, mais la Bible le dit et c'est vrai. Il vous a choisi. Comme des élus de Dieu saints, ça ne veut pas dire pur moralement. Le mot saint, la plupart du temps dans le Nouveau Testament, signifie simplement « mise à part dans une relation spéciale avec Dieu ». D'accord ? Et c'est ce que ça veut dire ici. Comme des élus de Dieu, mis à part pour être le trésor spécial de Dieu, bien-aimé de Dieu, et nous retrouvons tout cela dans un verset de l'Ancien Testament qui dit ceci, je paraphrase, « Vous êtes un peuple saint, au Seigneur votre Dieu, et le Seigneur vous a choisi d'entre tous les peuples sur la face de la terre pour être son trésor et sa propre possession. C'est vous, ça. Il parle d'Israël à l'époque, mais c'est vraiment réalisé en vous. Donc, en tant que peuple béni, aimé, chéri, mis à part, élu par Dieu dans une grâce, une miséricorde incroyable, vous serez capable de pardonner aux autres. Et si jamais vous n'arrivez pas à revêtir ces vertus, c'est que vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez l'évangile. Vous ne vous nourrissez pas assez de ce que vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez être tellement pardonné, amnestié, gracié, et puis ne pas vouloir pardonner quelqu'un d'une faute beaucoup plus petite? N'est-ce pas? C'est ça notre problème. Que Dieu nous bénisse et nous aide en tant qu'élus bien-aimés de revêtir ce beau vêtement du caractère de Christ. Nous allons chanter le numéro 206. Enseigne-moi, Seigneur. Oui, enseigne-moi d'être comme toi.